Y a comme un ange qui passe, c'est comme un tour de magie, un grand soleil qui nous cache l'orage qui va revenir, l'orage qui va.
Personne signe un nouvel album, Funambule ou Tentative de survie en milieu hostile. Dans cet album, chaud et électrique, on retrouve les riffs de guitare endiablés, ainsi que sa voix rocailleuse qui chante ses sensations et sentiments sur le monde qui nous entoure. Il sera en concert au Fil le dimanche 10 novembre à 19h. Rencontre aujourd'hui sur Radio Ondaine 90.9 avec cet artiste hors pair. Bonjour Paul Personne.
Ouais, salut.
Alors, vous avez sorti un nouvel album qui s'appelle Funambule ou Tentative de survie en milieu hostile. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce nouvel album ?
Qu'est-ce que je pourrais en dire ? Disons que c'est un truc qui a été un peu gambergé vers 2017, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, j'avais arrêté une tournée en 2015. Après, j'ai fait un autre album avec des musiciens américains. L'Austin Paris Blues Band, pour rigoler, une sorte de récréation, mais je pouvais pas partir sur la route avec cet album, parce que c'était trop compliqué avec les musiciens américains, et voilà, donc après, je me suis retrouvé un peu à tourner en rond chez moi, et à voir que j'avais pas mal de chansons, pas mal de choses. On était en 2017, en pleine période électorale américaine, française, tout, donc ça m'a donné du grain à moudre un peu pour mes états d'âme, et donc voilà quoi, j'ai commencé à écrire des choses à droite, à gauche, et puis j'ai ressorti un vieux 8 pistes que j'avais depuis pas mal de temps, donc j'ai fait des petites maquettes à la maison. Il a fallu que je trouve des musiciens, parce que voilà, j'en avais pas là sous la main, donc voilà, j'ai trouvé des mecs sympas, et au départ c'était vraiment, je voulais enregistrer des sortes de démos quoi, de répétitions que je puisse garder. Donc je suis allé dans un petit studio à Forges-les-Eaux, je sais pas, deux heures et demie de chez moi. J'ai commencé, j'ai retrouvé un ingénieur du son anglais avec lequel j'avais travaillé dans les années 90. Et voilà, donc on a enregistré la plupart de l'album à cet endroit. J'ai trouvé que c'était sympa, que voilà, ça tournait bien. Mais j'ai fini après au studio ICP à Bruxelles. avec pareil un ingénieur du son avec lequel j'avais travaillé en 1986 sur l'album 24 sur 24. Et donc voilà, tout a été fait assez relax, quoi. J'avais aucune pression ni de la part de la maison de disques et ni de ma part non plus. Il n'y avait pas de prévision de sortie vraiment précise. Et voilà, puis après, la sortie de l'album allait définir un peu l'itinéraire de la tournée, quoi.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a inspiré, du coup, pour repartir dans l'écriture, la composition et l'enregistrement ?
On va dire, j'ai toujours des choses comme ça en permanence dans l'année. J'ai toujours des idées qui me viennent sur une mélodie, un riff, je sais pas quoi, une suite d'accords que je mets ou sur un dictaphone ou sur un vieux magnéto à cassette ou des choses comme ça. Et puis au niveau de l'écriture, je scribouille toujours deux trois trucs sur un carnet que j'ai ou dans la voiture ou sur ma table de chevet ou dans j'ai plein de carnets à droite à gauche sur lesquels un peu comme ça j'écris des ressentis c'est un peu cette période comme ça électorale, ces infos à la télé, mon parfois mis en colère, parfois désespéré, et donc j'ai écrit quelques trucs comme ça, et ça aboutit en mélangeant les mots et les bouts de musique que j'avais, ça aboutit à cet album-là, quoi.
D'accord. Revenons un peu à vos débuts. Pourquoi se mettre à la musique ? Pourquoi la guitare ? Pourquoi le blues, au départ ?
Ça, je saurais pas trop quoi dire. Je pense que c'est un truc qui est parti comme ça, quoi. Bon, ma sœur était musicienne, mais bon, elle jouait de l'accordéon, donc voilà, elle jouait très très bien. Elle a eu des médailles d'or, des coupes, des tout ça. Mais bon, moi, ça avait pas l'air d'être plus que ça. Vu mon père m'avait mis un accordéon entre les bras, et c'était pas mon truc. J'ai pas su en tirer une note. Mais par contre, ouais, j'aimais écouter parfois cette radio qu'avaient mes parents. Où il passait tout ce qui passait à l'époque dans les années 50, 60, enfin voilà. C'était juste au début des années 60, là, quand j'ai vu Johnny Hallyday se rouler par terre avec une guitare dans une émission de télé, que là, ouais, j'ai eu un déclic, j'ai senti qu'il y avait un truc. Après, il y a eu l'invasion britannique, enfin, la British Invasion, là, avec les Beatles, les Stones, enfin, tous ces groupes anglais, et là, j'ai senti que j'accrochais à fond, c'était mon truc. Je pouvais pas me dire encore ouais, ma vie c'est d'être musicien, mais je sentais qu'il y avait une chose qui m'intéressait, c'était ça, quoi. C'était voilà, j'avais joué au foot pour rigoler quand j'étais môme avec des copains, mais je sentais que là c'était plus le football qui m'intéressait, c'était autre chose, quoi. Et puis voilà, après toute la musique américaine qui déboulait à la radio ou dans les disques qu'on pouvait acheter, et voilà, les copains, les rencontres de lycée, enfin toutes ces choses-là entretiennent et permettent de monter les premiers groupes, adolescents, quoi. Et c'est à partir de là, quoi, que même mon père m'avait dit « Tu veux faire quoi plus tard ?» Je sais pas, j'avais peut-être 16 ans ou 15 ans. Et j'ai fait « Ouais, musicien ». Et puis il voulait m'inscrire au conservatoire et moi ça m'intéressait pas parce que moi j'écoutais de la musique instinctive, j'écoutais du rock'n'roll, j'écoutais tout ça, et pour moi, toutes mes idoles ne savaient pas lire la musique, donc je m'en foutais d'aller au conservatoire pour apprendre du jazz ou des notes ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu parti comme ça. Puis les premières guitares, j'ai joué de la batterie, puis après on m'avait prêté une guitare et j'ai appris quelques accords que me montraient des copains, et c'est avec ça que j'arrivais à déchiffrer mes premières chansons, des disques que j'écoutais, et puis après, mes premières compositions, ouais, vers l'âge de 15-16 ans, quoi.
D'accord. Et qui sont vraiment ceux qui vous ont influencé en termes d'artistes ? Vous parliez de Johnny, vous parliez de...
Bah, disons, Johnny, ça a été plus une attitude, ça a été, on va dire, mon premier rock'n'roll à moi, quoi. On n'avait pas vraiment vu sur ce qui se passait aux États-Unis ou en Angleterre à l'époque. Johnny, c'était quand j'avais 11 ans, quoi. Mais après, ouais, toute l'école anglaise dont je viens de parler, enfin voilà, les Beatles, les Stones, voilà, tous ces groupes anglais qu'il y avait, faisaient partie de toutes ces mélodies que j'adorais. Bon, j'avais une préférence pour les Beatles dans le sens où il y avait une richesse mélodique et musicale plus grande que chez les Stones. Puis j'aimais bien le côté bluesy des Stones, quoi. Et puis après, bon voilà, il y a eu Jimi Hendrix qui a été énorme, Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, les trois guitaristes qui ont joué avec John Mayall, qui était un peu le père du blues anglais à l'époque, vers 66, par là. Et puis, voilà, il y avait là, tout ce qui se passait aux États-Unis, en Californie, voilà, tous ces groupes, Jefferson Airplane, Grateful Dead, il y avait Crosby, Stills, Nash & Young, il y avait plein de gens, quoi, James Taylor, tout ça. Enfin, il y avait toute une musique, une ambiance californienne qui venait de là-bas, ou de Los Angeles, du côté de Laurel Canyon. Il y avait les Doors qui ont été pour moi une énorme influence. Et puis, voilà, je traversais la vie en écoutant plein de choses qui venaient alimenter un peu mon bagage musical d'adolescent, quoi.
Payer les dégâts.
Aujourd'hui, faire du rock, la musique à guitare, comment on la défend, cette musique? Vers quel public ça s'adresse plus?
J'en sais rien, j'essaie pas de savoir. Tout de même, j'ai jamais essayé d'être à la mode ou de sauter dans certains trains qui passaient devant chez moi, qui étaient les fashion trains comme ça, où fallait faire ce son-là, ou s'habiller comme ça, ou avoir ce look. Je m'en suis toujours foutu complètement de ça. J'ai jamais essayé d'être opportuniste ou d'essayer de plaire à une nouvelle vague de jeunesse montante, pour essayer de que ça marche. Je suis toujours resté fidèle à mes envies, à mes sentiments, à ce que j'avais envie de faire passer. C'est une phrase que j'ai toujours utilisée, je propose aux gens et les gens disposent. Ils ont le droit d'aimer, de pas aimer. J'essaie pas d'être. Je me considère absolument pas comme un mec du passé. J'ai bien les pieds dans cette vie-là, mais je suis pas obligé de suivre tout ce qu'on nous propose. Je suis pas obligé de faire des tweets ou d'aller sur la toile. Je suis pas obligé d'avoir un iPhone comme tout le monde. Je suis pas obligé. Je vis la vie que j'ai envie de vivre. Alors donc la musique que je fais, elle s'adresse à qui veut bien l'apprendre, qui veut bien marcher dans ce voyage-là, quoi. Je vois des gens que dans les concerts qu'ont mon âge, j'en vois des plus jeunes et je vois carrément des têtes d'ados aussi, quoi. Oui. Donc comme quoi la musique est vraiment intemporelle et universelle et elle peut s'adresser à plein de gens sans forcément pour ça aller du côté de la mode, quoi.
D'accord. Et là aujourd'hui vous êtes sur quelle maison de disques?
J'ai un label qui s'appelle Vericord. Et avec lequel je m'entends très bien depuis des années. À chaque fois, on fonctionne pour un album. À chaque fois, on signe d'album en album, comme ça. Et tant que ça se passe bien, j'ai pas de raison d'aller voir ailleurs, quoi.
D'accord. Comment est organisée la tournée et la promo du nouvel album Funambule ou Tentative de survie en milieu hostile? Et d'ailleurs, pourquoi ce titre?
Ce titre correspondait à tout ce que je ressens depuis des années, j'aurais tendance à dire depuis que je suis môme, de la cour de récré à maintenant, quoi. La cour de récré fait pas de cadeaux. On voit déjà les futurs adultes qu'est-ce qu'ils vont devenir, un peu. On voit déjà les dominateurs, les dominés, les grandes gueules, ceux qui veulent avoir la plus grosse, on voit déjà tout ça un peu, c'est cette école du pouvoir qui risque de se propager plus tard et qu'on constate avec désolation au moment de l'adolescence où on se rend compte que effectivement ces mecs-là ils étaient destinés à être des mecs un peu comme ça après on regarde les adultes, on voit que on leur a mis un monde entre les pattes qui prennent un malin plaisir à détruire. Et donc, on sait que la vie va pas être facile, quoi. Mmh. Et donc, on grandit avec tous ces paramètres. Et on en arrive, à l'âge que j'ai, à faire des albums qui s'appellent « Tentative de survie en milieu hostile », parce que le milieu est hostile, quoi. Mmh. Je veux dire, on a l'impression d'être dans une mécanique comme ça, bien huilée. Mais on se rend compte que dès qu'il y a... ça coince un petit peu à droite à gauche dans le grenage, on peut vite arriver à des êtres humains qui n'ont plus aucune civilité, qui deviennent des débuts de bêtes sauvages. C'est quand on voit ce qui se passe au niveau de l'écologie, au niveau de la maltraitance animale, au niveau de tas de choses comme ça. Donc c'est des tas de choses qui me font mal et avec lesquelles on vit et où tous les jours je me dis que l'être humain, malgré cette graine d'intelligence qu'on y a donnée, ne la met pas tellement bien à profit, ou alors c'est que c'est pas la bonne intelligence, c'est qu'il sait mal se débrouiller avec, quoi.
Dans votre album, donc, il y a des titres comme Karma, Bonheur, Blessure, Dégâts, et j'en passe, qui sont très rock, avec des bons riffs de guitare. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle Blessure, que vous faites au piano. Il y a une raison pour la faire au piano ?
Non, c'est parce que en fin de compte, moi je suis un très mauvais pianiste, mais j'ai un petit clavier chez moi sur lequel de temps en temps je pianote deux trois choses. avec des accords simples, avec des choses comme ça. Puis ce qui est marrant, c'est par rapport à la guitare, un piano, quand on n'a pas trop l'habitude, on a des trucs qui d'un seul coup, on a l'impression que ça sonne vachement bien, parce qu'il y a les basses et tout ça, c'est riche, quoi. Et on se dit, tiens, j'ai trouvé un truc vachement sympa. Après, quand on traduit ça sur la guitare, on se dit, ah oui, bon, bah, c'est des accords que je connais par cœur, mais le fait de composer, alors c'est vrai que il y a deux, trois trucs comme ça, il y a Blessure, il y a Avant, qui sont des trucs que j'ai composés comme ça en pianotant. Mais disons que là, même pour ce nouvel album, j'avais vraiment envie de ravoir à nouveau un clavier. Et par le passé, j'ai longtemps, souvent joué avec des mecs qui jouaient du piano, de l'orgamon, du piano électrique, toutes ces choses-là. Et j'aime la richesse de cet instrument. Et là, sur l'album, donc j'ai demandé à un pianiste de faire partie de l'aventure. Là, en l'occurrence, comme les musiciens, tous ceux qui ont participé à l'album n'étaient pas libres, ils jouaient avec d'autres personnes. J'ai trouvé une bande de jeunes mecs, là, pour être avec moi sur la route, qui sont super. Un batteur, un bassiste et un super pianiste, tout. Et là, on s'amuse bien. Donc, le piano a fait une nouvelle apparition dans la musique que je fais, quoi.
D'accord. On va revenir un peu sur votre tournée nationale. Vous avez combien de dates de prévues ?
Je sais pas, là. Je sais que je suis en tournée là,
depuis le
début octobre, ouais. Jusqu'à fin novembre. Après, je sais qu'il y a un break sur décembre, janvier, février. Puis après, je repars l'année prochaine sur mars, avril, mai. Puis certainement les festivals d'été, quoi. Je sais qu'il y a un Olympia qui vient autour du 27 mars, je crois, l'année prochaine. Et puis voilà, je risque d'être pas mal occupé dans les mois à venir, quoi.
D'accord. Vous jouez donc à Saint-Étienne au Fil le 10 novembre. Comment construisez-vous la setlist ?
C'est un peu au jour le jour, quoi. Ça dépend si c'est une salle assise, une salle debout. Voilà, je vais peut-être pas exactement jouer la même chose dans des configurations différentes. C'est un peu un truc de pareil, là aussi, de ressenti. Je regarde un peu comment ça sonne, si c'est grand, si c'est plus intimiste. excusez-moi. Il y a aussi des morceaux pour changer. J'ai fait répéter, on a répété avec les musiciens, je sais pas, une quarantaine de titres, un truc comme ça. Et donc, comme un concert de deux heures, ça fait, je sais pas... Enfin, une vingtaine de titres, en gros, quoi, quelque chose comme ça. Donc, ça permet certains soirs de dire, ok, on va pas jouer celui-là, on va plutôt mettre celui-là. Et puis voilà, c'est des trucs un peu histoire de changer. J'aime pas quand ça commence à devenir un peu des chaussons confortables où tous les soirs on joue la même chose et on commence à s'ennuyer au bout de 10 concerts, quoi.
Du coup, vous allez jouer, donc vous adaptez un petit peu des choses de vos derniers albums, des reprises. Si vous faites reprises, vous faites quoi comme reprise ?
Oh bah disons que voilà, je privilégie un peu le dernier album parce que voilà, il y a ce côté nouvelles chansons. Mais bon, il y a des formes d'incontournables par rapport à des chansons du passé. Et puis il y a des choses aussi que j'ai pas jouées depuis longtemps qui appartiennent à des vieux albums et ça me plaît d'aller piocher des choses en disant waouh, celle-là ça fait longtemps, ou alors maintenant qu'il y a un clavier avec moi, ça me permet de jouer des chansons que je pouvais pas jouer dans la tournée précédente où on était plutôt deux guitares basse batterie, et donc là ça me permet de m'amuser avec des vieilles chansons. Alors voilà, et pas pareil, un soir je vais mettre celle-là, le soir d'après je vais en mettre une autre, donc voilà, c'est histoire de diversifier, ouais.
Et tout électrique ou un peu des choses acoustiques ?
Non, tout est électrique, mais avec, on va dire, des ambiances, des atmosphères différentes. C'est-à-dire, il y a des balades, il y a des trucs plus cool, on va dire, et puis des trucs, plus rentre-dedans, quoi.
Ok. Et aujourd'hui, Paul Persson, s'il y avait un artiste avec lequel vous aimeriez collaborer, ce serait qui et pourquoi ?
Ben là, comme ça, à brûle pour point, je vois pas. C'est-à-dire, j'ai eu la chance de faire des trucs avec des tas de gens super, quoi, par le passé. Et la vie, le hasard des rencontres et de la vie m'a permis ça. À un moment donné, oui, j'avais aussi des petits rêves comme ça secrets en disant, j'aimerais bien faire un truc avec Eric Clapton ou avec Carlos Santana ou machin. Bon, voilà, pour le moment, ça s'est pas encore fait, mais on va dire que, voilà, il n'y a plus la même urgence. Je m'en fous un peu de tout ça. Les rêves, je préfère les laisser sur des points d'interrogation, c'est-à-dire des trucs auxquels on s'attend pas, plutôt que de dresser des plans sur la comète comme ça, en me disant « Ouais, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça comme j'ai pu avoir des envies par le passé. » Ça veut pas dire que j'ai pas d'envie, j'ai peut-être des trucs dans la tête qui tournent comme ça, mais je laisse un peu la vie faire, ou parfois je provoque un peu certaines choses, comme un peu ce que j'ai fait, voilà ce qui s'est passé sur l'album Lost in Paris Blues Band, là en anglais, pour rigoler avec ces musiciens américains. C'était un truc auquel je m'attendais absolument pas, et c'est un truc sur le coup que j'ai provoqué et qui est arrivé. J'ai pris du bon temps avec ça, on s'est bien marré, et ça, j'aime bien ce genre de hasard comme ça qui vient frapper à la porte alors qu'on s'y attend pas. Donc je laisse un peu faire la vie et le temps, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Paul Persson. On vous retrouve donc à Saint-Étienne au Fil le 10 novembre.
Merci à vous.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Au revoir. J'aurai un jour. Depuis des lustres, tu sais que tu trimbales une sacrée chcoune qui te colle au basque et t'invoque encore les esprits. Qu'une étincelle rallume ta chaîne de vie, tu dis même pas peur, je t'aurai un jour. Tu dis même pas peur, je t'aurai un jour. Je t'aurai un jour. Je t'aurai un jour. Je t'aurai un jour. Je t'aurai.